Les premières rencontres internationales de la web radio scolaire au congrès de la MLF à Deauville. L'école française, une pédagogie laïque pour un monde interculturel.
Bonjour et bienvenue, on se retrouve sur la web radio du congrès de la mission laïque française à Deauville. Nous recevons dans cette émission Sylvain Connac, enseignant-chercheur en sciences de l'éducation. Il intervient sur la coopération entre élèves. Nous recevons Pascale Toscani, maître de conférences cognitives à la faculté d'Angers. Elle nous parle de l'évolution de l'école, de la génération Gutenberg à la génération Internet et au-delà. Nous recevons aussi Xavier Norf, inspecteur général d'affaires culturelles du ministère de la Culture et de la Communication. Il fait une intervention sur la langue française. La langue française est-elle une langue laïque? Nous finissons nos interviews avec Sandra Pardo, proviseure adjointe au Grand Lycée Franco-Libanais de Beyrouth. Elle nous parle de la téléprésence. Enfin, nous voyagerons jusqu'aux États-Unis avec Jane, qui vient de New York, qui nous parlera de la web radio de son école.
Laïcité, ça rime avec respect,
liberté,
ouverture à l'autre
et interculturalité.
Mon école est française.
Mon école est laïque.
On y sème à tout vent.
Dialogue et tolérance.
On y échange et on partage sans compter.
À Deauville, on se rencontre.
On collabore, on crée.
Au congrès de la MLF.
Pour la collaboration scolaire.
Pascale Toscani, vous êtes notre première invitée. Vous êtes interviewée par Valeria de Reus en Espagne et Raphaël de Tripoli au Liban.
Bonjour Pascale Toscani, vous êtes enseignante, chercheuse, maître de conférences cognitives à l'université UCO d'Angers. Vous dirigez également un laboratoire interdisciplinaire de neurosciences éducatives. Ce qui est intéressant dans ce laboratoire, c'est le fait de travailler en collaboration avec les enseignants et les universitaires.
Bonjour, pouvez-vous nous présenter un peu votre domaine de travail ?
Alors, mon domaine de travail, c'est un lieu qui se situe entre la recherche pure, c'est-à-dire des gens qui travaillent sur le cerveau, ce qu'on appelle la recherche fondamentale, qui travaillent sur les vrais cerveaux et sur le fonctionnement du cerveau, et la pratique, c'est-à-dire les enseignants qui travaillent eux aussi avec les cerveaux, c'est-à-dire des élèves qui apprennent. Donc, mon champ à moi, c'est de lire les résultats de l'imagerie fonctionnelle, les IRM, et de faire des traductions, ce qu'on appelle, c'est un gros mot qu'on appelle la didactique, la traduction, le transfert didactique, c'est-à-dire de lire les résultats des IRM, des recherches sur le cerveau, et d'aider les enseignants à comprendre comment fonctionne le cerveau pour qu'ils puissent modifier leur système d'enseignement.
Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce domaine ?
Alors, ce qui m'a incité à poursuivre ce domaine, c'est que, en tant que chercheur, il était tout à fait inacceptable pour moi qu'un enfant ne comprenne pas. Donc, je voulais savoir pourquoi les enfants ne comprenaient pas. Et pour savoir pourquoi un enfant ne comprend pas, eh bien, il faut aussi comprendre comment le cerveau fonctionne, comment il dysfonctionne. Et aujourd'hui, la recherche est tellement rapide, elle évolue extrêmement rapidement, et on arrive à comprendre des choses très intéressantes sur le fonctionnement du cerveau, même si on est loin de tout savoir. Néanmoins, on peut comprendre un certain nombre de choses qui peuvent aider les élèves et les enseignants.
Que peut apporter la neuroscience dans la construction de l'identité de l'enfant ?
Alors, c'est très important parce que jusqu'à présent, on mettait d'ailleurs le mot identité, tout ce qui relève de la construction de l'enfant, son développement, sa psychologie. Puis on comprend aujourd'hui que pour se comprendre totalement, il faut avoir un certain nombre de connaissances sur soi-même et savoir comment fonctionne son cerveau, dans la mémoire, comment fonctionne sa mémoire, comment on apprend à faire attention, comment on apprend à utiliser le langage à un certain niveau. Ça, ce sont des questions auxquelles on a un peu réponse aujourd'hui et que les élèves doivent comprendre aussi. Et c'est tout à fait compréhensible pour eux comme matériel.
Dans certaines écoles, les enseignants disent à l'élève qu'il est bête ou qu'il n'a pas le niveau et il sera convaincu qu'il n'est pas intelligent. Croyez-vous qu'il y a des personnes qui manquent vraiment d'intelligence ?
Non, je ne crois pas. Ça n'existe pas, les gens qui manquent d'intelligence. Toutes les personnes évoluent tout au long de la vie. On va construire son cerveau et le faire évoluer tout au long de la vie. On va créer de nouveaux neurones tout au long de la vie. Tous les enfants ne naissent pas égaux. L'égalité n'existe pas. Mais tous les enfants peuvent évoluer. Donc il est extrêmement important de ne jamais dire à un enfant qu'il est bête ou qu'il n'apprendra pas. C'est une erreur biologique et c'est une erreur. C'est un problème éthique aussi.
Comment la neuroscience pourra apporter une solution à l'échec en général et plus spécifiquement à l'école ?
Alors, les neurosciences ne sont pas faites pour gérer l'échec scolaire. Les neurosciences, c'est un champ de connaissances qui informe les enseignants. Mais les neurosciences ne règlent pas les problèmes scolaires, puisque quand on a des difficultés scolaires, ça peut être lié à des tas de raisons. Des raisons cognitives, c'est-à-dire liées au cerveau, mais aussi psychologiques, environnementales. C'est la relation qu'on peut avoir avec les uns et les autres. Le cerveau donne des informations, mais ne résoudra pas le problème de l'échec.
Nous n'allons pas vous retenir davantage, puisque vous avez une conférence dans quelques minutes. Merci, Pascal Toscali, enseignante et chercheuse en neurosciences, pour nous avoir consacré votre temps précieux.
Merci et bravo à vous.
El Liceo Francis Molière de Zaragoza participa en los primeros encuentros internacionales de la web radio escolar de la Misión Laica Francesa.
Notre prochain invité est Sylvain Connac. Il est enseignant, chercheur en sciences de l'éducation. Il intervient sur la coopération entre élèves. Vous êtes interviewé par Robin de El Jadida au Maroc.
Bonjour Monsieur Connac. Dans quelle classe intervenez-vous ?
Bonjour Robin, bonjour tout le monde. Alors, dans quelle classe j'interviens ? Alors ça dépend parce que moi, comme beaucoup de mes collègues, on a un double métier, on est enseignant et chercheur. Donc en tant qu'enseignant, moi j'interviens avec des étudiants à l'université, dans des amphithéâtres. Et en tant que chercheur, je travaille avec des enseignants qui sont soit en école maternelle, en école élémentaire, en collège ou en lycée. Et je travaille beaucoup parce que ça me semble être dans ces lieux-là où ça serait le plus important. Je travaille beaucoup dans des écoles qui sont en éducation prioritaire.
Quels sont les effets positifs de la coopération entre élèves ?
Alors, il y en a plusieurs. En fait, le problème, c'est que s'il n'y avait que des effets positifs, ça ferait longtemps que toutes les classes et toutes les écoles développaient déjà de la coopération et que toi, quand tu es allé à l'école, dès l'école maternelle, tu étais déjà habitué à des formes de coopération. Il y a des effets positifs, mais malheureusement, il y a aussi des difficultés qui conduisent des enseignants à se méfier de ça. Après, la coopération, la principal intérêt... C'est d'aider des jeunes à penser que leurs copains, ils sont au moins aussi importants qu'eux. Et que, je ne sais pas si tu connais cet adage, seul on va vite, à plusieurs on va beaucoup plus loin. Voilà, c'est un peu cette idée-là.
Comment faire en cas de dispute lorsque les élèves ne veulent pas coopérer ?
Alors, déjà sur la coopération, quand des enfants ou des ados ne veulent pas coopérer, ils ne sont pas obligés de coopérer. Ils peuvent toujours faire le même travail tout seuls. Et ça, c'est justement un des éléments qui conduit à des bénéfices forts de la coopération. Quand il y a des conflits entre deux jeunes dans une classe, on a l'habitude de se poser deux types de questions. C'est-à-dire que c'est est-ce que c'est un conflit qui est lié à une règle qui poserait problème dans la classe, ou est-ce que c'est un conflit entre deux jeunes ? Alors si c'est un conflit entre deux jeunes, il existe plein de techniques de règlement non violent. Et donc les jeunes sont formés à ces techniques et puis ils essayent de voir si ça marche. Et si c'est un problème de règles, ce qui est intéressant, je ne sais pas si tu es en collège ou en lycée, mais de faire une réunion et d'aborder pendant ces réunions justement toutes les règles qui permettraient de mieux travailler à plusieurs.
Pourquoi vous vous intéressez à la question de la coopération ?
En fait, parce qu'on n'a pas le choix aujourd'hui, parce que les populations, les pays, les sociétés demandent beaucoup plus aux enseignants en termes de réussite. Et lorsqu'on demande à une seule personne, un prof dans une classe, de s'occuper de ce qui se passe dans le cerveau de chacun de ses élèves, tout seul, il ne pourra pas y arriver. L'entreprise est beaucoup trop difficile. Et donc la force de la coopération, c'est de dire aux jeunes, en tant qu'enseignant, je vais faire de mon mieux, mais j'aurai besoin de toi pour que tous on puisse devenir meilleur.
Et en tant que chercheur, vous cherchez quoi ?
Alors, moi, je cherche avec des enseignants qui acceptent de m'ouvrir la porte de leur classe. Et puis, je regarde comment les élèves travaillent. Et puis, j'organise des entretiens un petit peu comme celui qu'on est en train de faire. Et je demande aux élèves, même depuis la maternelle, de me dire qu'est-ce qu'eux, ils pensent de la façon dont ils travaillent à l'école. Et en fonction de ce qu'ils me disent et puis de ce que je vois, souvent avec des vidéos... J'en déduis un certain nombre de choses pour améliorer petit à petit la façon d'organiser la coopération avec les enseignants.
Merci Monsieur Connac. Nous pouvons vous retrouver via vos nombreux ouvrages sur Amazon et sur la FNAC.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci Robin de El Jadida au Maroc.
Le lycée international Jean Charcot participe aux premières rencontres internationales de la web radio scolaire de la mission laïque française.
Partons jusqu'aux États-Unis avec Jane qui vient de New York. Elle nous présente les pratiques de sa web radio.
Bonjour Ninon, dans notre école, l'école internationale de New York, on a un club de radio. Le lundi, pendant une heure, on se voit. Les membres de ce club sont des élèves du collège. Notre rôle est de choisir le thème de l'émission et la planifier, c'est-à-dire décider ce qu'on va faire. En pratique, on fait des reportages sur les actualités, les nouvelles de l'école et conduit des interviews. Des fois, les classes travaillent ensemble pour faire une chronique, par exemple sur les Jeux Olympiques. La radio est introduite dans toutes les classes pour enregistrer les débats et les discussions. Par exemple, la classe de CP, on fait un débat sur qu'est-ce que la colère. J'aime beaucoup ce club de radio et surtout que j'ai eu la chance d'aller à Deauville.
Merci à toi, Jane de New York. Vous êtes toujours avec nous au premier rencontre international de la web radio scolaire.
C'est le collège Marguerite Yourcenar de Reus, réseau MLF, qui vous parle.
Nous avons le plaisir d'accueillir Xavier Norf, inspecteur général en affaires culturelles au ministère de la Culture et de la Communication. Il fait une intervention sur la langue française. Est-elle une langue laïque ? Il est interviewé par Oscar de New York et par Amandine de Lisieux en France.
Bonjour monsieur.
Bonjour Oscar et Amandine.
Donc vous êtes inspecteur général des affaires culturelles. Pourquoi aujourd'hui en 2018 posez-vous cette question, le français est-elle une langue laïque ?
Parce qu'il est intéressant de s'interroger sur les rapports d'une langue, notre langue commune, avec la façon dont nous vivons en société, dans une société qui, jusqu'à nouvel ordre, s'appelle la République. Enfin, c'est l'État qui s'appelle la République. Mais la République, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, c'est nous en tant que citoyens, en tant que citoyens. Or, ces citoyens, ils parlent une langue, et dans notre loi fondamentale, il y a cet article qui dit « La langue de la République est le français ». Et donc, j'ai voulu voir ce que ça signifiait véritablement, comment on pouvait faire travailler cette notion de laïcité en l'appliquant à la langue.
Selon vous, est-ce qu'il existe une langue véritablement laïque ?
Toute langue peut être laïque, c'est-à-dire qu'on attache des représentations à une langue. Hein. On ne peut pas dire que le français porte naturellement, intrinsèquement, la laïcité. On attache des valeurs de laïcité à la langue française. Et pourquoi est-ce qu'on attache des valeurs de laïcité à la langue française ? Mais pour une raison très simple, c'est que cette notion, ce concept, qui n'est pas toujours très facile à expliquer, il a été construit pour l'essentiel en français. La preuve en est que le mot de laïcité est très très difficile à traduire dans les autres langues. Très difficile à traduire dans les autres langues. Et il n'existe véritablement qu'en français. Et ça n'est pas un hasard, c'est parce que la laïcité, elle a été construite en français. Elle n'a pas été construite en 24 heures, en 48 heures, elle a été construite à la suite d'un long processus de séparation du temporel et du religieux, de la raison et de la foi, si vous voulez, du politique et du religieux. Et ça a été une très longue histoire. C'est une très longue histoire qui s'est conclue en 1905 par une loi, qui est la loi de séparation de l'Église et de l'État, où on a dit il faut que César, il faut rendre à César ce qui est à César, et puis à Dieu ce qui est à Dieu, en quelque sorte. Il faut séparer les deux choses.
Donc, si jamais il y a une langue qui n'est pas laïque, à votre avis, y aurait-il des solutions pour rendre cette langue laïque ?
Il suffirait qu'elle-même, elle exprime fortement des valeurs de laïcité. C'est-à-dire qu'elle soit le véhicule ou le matériau, comme vous voudrez, d'une pensée de la laïcité. C'est-à-dire que ce soit une langue qui fasse travailler la raison, l'exercice de la raison, que ce soit une langue qui fasse travailler le jugement critique, qui ne soit pas simplement une langue qu'on apprend par cœur, si vous voulez, qu'on apprend par cœur comme si on ne la comprenait pas. Hein ? Y a des langues qu'on apprend par cœur, et on les apprend par cœur parce qu'on n'a surtout pas besoin de comprendre ce qu'elles disent, vous voyez ? Une langue laïque, c'est une langue que l'on comprend. C'est une langue qui permet d'exercer un jugement critique. Mais toute langue peut permettre d'exprimer un jugement critique. Et puis, on peut apprendre par cœur dans toutes les langues sans rien comprendre de ce qu'elles disent. Donc, toute langue peut être laïque et toute langue peut être non laïque, si vous voulez.
Ok, merci à vous, Xavier Nort.
Merci à Oscar de New York et à Amandine de Lisieux en France.
Et merci à Oscar et à Amandine.
Lénine de New York participe à la première rencontre internationale de la Web Radio scolaire.
La mission laïque française.
Nous finirons avec Sandra Pardo, proviseure adjointe au Grand Lycée Franco-Libanais de Beyrouth. Elle nous parle de la téléprésence. Colline de Lisieux en France et Lynn de Tripoli au Liban, l'interview.
Bonjour, bonjour Sandra. Alors, pouvez-vous nous définir c'est quoi la téléprésence pour vous ?
Alors, bonjour à vous deux. Alors, le principe de la téléprésence, c'est de permettre à des élèves qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas se déplacer dans un établissement scolaire, d'être présents, en fait, au travers un robot qui leur permet, du coup, d'être en classe. Voilà.
Quelle est son utilisation dans le domaine scolaire et quand est-ce que vous avez commencé à l'utiliser dans votre établissement ?
Alors, l'utilisation dans le domaine scolaire, comme je viens de le dire, c'est le cas où un élève est hospitalisé pour une longue durée ou alors a une difficulté de déplacement. Ça permet à cet élève en fait, d'assister au cours en évitant de se déplacer. Donc ça a un intérêt évidemment pédagogique essentiel. Et au grand lycée, donc, nous avons commencé à l'utiliser à partir de cette année, de la rentrée de septembre, pour deux élèves qui avaient des pathologies qui ne leur permettaient pas de se déplacer au lycée.
Donc, comment avez-vous eu l'idée d'utiliser la téléprésence ?
Alors, c'est une idée qui est ancienne, mais on va dire que cette année, en fait, il y a eu la rencontre en fait, entre le besoin de ces deux élèves au moment de la rentrée, l'expertise technique du service numérique du Grand Lycée et du réseau MLF, et la direction et aussi donc la participation du comité des parents au financement de ce robot de téléprésence.
Est-ce que la téléprésence peut-elle être utilisée dans d'autres domaines ?
Alors, elle peut être utilisée dans d'autres domaines. Nous, on ne l'utilise que pour ça. Je crois qu'elle est utilisée aussi pour permettre des visites virtuelles, notamment de musées. Voilà, mais en tout cas au sein du Grand Lycée, nous on l'utilise uniquement pour répondre aux besoins des élèves qui ont une situation particulière.
Donc la manipulation est-elle facile ? A-t-elle besoin de connaissances techniques ou informatiques spéciales ?
Alors les connaissances techniques, elles sont nécessaires au moment de l'installation en fait. Après, pour les usagers, donc que ce soit les élèves, les enseignants ou les parents évidemment qui sont impliqués, c'est une utilisation qui est très simple puisque c'est une application à télécharger. Après, il y a un identifiant, un mot de passe et après du coup, qui permet de prendre contrôle du robot. Donc c'est quelque chose de très simple, ce qui explique la facilité de son utilisation là cette année par rapport à d'autres outils qui existaient avant, type visioconférence. Voilà.
D'après votre expérience au Grand Lycée, comment la connexion Internet peut-elle affecter le bon fonctionnement du robot de la téléprésence ?
Alors, le Liban est un pays qui connaît, on va dire, des vicissitudes, enfin des aléas en termes de connexion. Et malgré ça, en fait, c'est quelque chose qui est très facile d'utilisation. Donc, ça ne consomme pas énormément de bandes passantes. Donc, c'est pas un obstacle. Ouais, il n'y a pas d'obstacle technique de ce côté-là.
Donc, croyez-vous que cette technique sera un jour financièrement accessible à tous les autres établissements ?
Alors, ça, c'est une question. Enfin, en termes de coûts, pour donner des éléments concrets, là, le robot de téléprésence que nous, on a choisi est autour de 3 000 à 3 500 euros, taxes comprises. Alors, il y en a un pour l'établissement, mais qui est utilisé, du coup, pour plusieurs élèves. Cette année, là, c'est les parents, le comité des parents qui l'a financé. Je ne pense pas que ce soit... Enfin, c'est une somme qui est évidemment importante, mais on n'est pas pour un robot par élève. Voilà, c'est quelque chose qui peut être utilisé, évidemment, pour plusieurs élèves. Donc, c'est un coût, mais ça ne me semble pas non plus complètement insurmontable.
La téléprésence ne risque-t-elle pas de prendre la place de l'école dans le futur ?
Alors là, c'est une bonne question. Et évidemment, après, je pense que si c'était le cas, ça aurait déjà été effectif. Là, le robot de téléprésence, c'est vraiment un outil pour permettre à des élèves qui ne peuvent pas être en cours physiquement d'être par l'intermédiaire du robot en cours. Donc on est vraiment sur un outil et évidemment ça ne remplace pas le contact direct qu'il peut y avoir avec un enseignant, l'échange direct qu'il peut y avoir un enseignant ou avec les autres camarades. C'est ce qui, actuellement, est le plus proche d'une présence réelle. Et je pense évidemment que ça ne remplace pas la présence effective et que ces élèves-là, évidemment, préféraient être physiquement présents dans la classe.
Merci du temps que vous nous avez consacré. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Nous rappelons que vous êtes proviseur adjointe du Grand Lycée de Beyrouth au Liban. À bientôt.
Un grand merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci à Colline de Lisieux en France et à Lynn de Tripoli au Liban.
Les premières rencontres internationales de la web radio scolaire au congrès de la MLF à Deauville.
L'école française, une pédagogie laïque pour un monde interculturel.
Merci aux invités, aux élèves, Valeria, Raphaël, Jane, Oscar, Amandine, Colline, Lynn pour leur interview et pour la chronique sur la web radio d'un établissement. Nous vous retrouvons demain à 10h10 pour une nouvelle émission de la web radio du congrès de la mission laïque à Deauville. À demain!
Il liceo Vittorio Hugo di Firenze partecipa ai primi incontri internazionali della web radio scolastica della Maison Laïque Française.